Vous écoutez Radio France Internationale, il est 4h ici à Paris, 2h en temps universel.
Gali Bonin.
L'actualité, c'est d'abord cette victoire écrasante de Brice Clotaire-Oligui Nguema à l'élection présidentielle du Gabon. Le chef de la transition militaire a raflé plus de 90% des voix. On vous emmène dans le QG de campagne du nouveau président gabonais dès le début de ce journal. En Équateur, le président sortant Daniel Noboa réélu avec 56% des voix, un résultat contesté par son opposante. En Iran, regain d'optimisme depuis les discussions de samedi entre Washington et Téhéran. Les retours positifs de ces premiers pourparlers redonnent du souffle à l'économie iranienne. Aux États-Unis, Meta devant les tribunaux. La maison mère de Facebook est accusée de pratiques anticoncurrentielles. Et avis aux fans de la série The Last of Us, le champignon qui transforme les humains en zombies existe aussi dans la vraie vie. On vous en parle à la fin de ce journal. Au Gabon, Brice Clotaire-Oligui Nguema a remporté haut la main l'élection présidentielle avec plus de 90% des voix, un plébiscite pour celui qui s'est emparé du pouvoir à la suite d'un coup d'État il y a plus d'un an et demi. C'est à son QG de campagne, au milieu de ses partisans, qu'il a suivi la publication des résultats provisoires annoncés par le ministre de l'Intérieur. Et l'ambiance y était à la fête. Le reportage sur place d'Yves Laurent Goma.
Arrivée triomphale de Brice Clotaire-Oligui Nguema et son épouse Zita au QG de campagne. Assis en face d'un écran géant, Oligui Nguema a suivi en direct la publication des résultats. La foule a exulté dès l'annonce de la victoire du général qui a mis une pause dans sa carrière militaire. L'euphorie a gagné les adeptes de l'ancien putschiste devenu président élu.
Il n'y a pas de char, le wifi passe 24 sur 24.
Les gens font comme si on était le 31 août, on attendait le 1er janvier. C'est quand même exceptionnel, c'est spirituel.
Nous sommes plus que satisfaits de ce qui est en train de se vivre et se passer au Gabon. Après près de 20 ans, c'est aujourd'hui qu'on participe à une élection sans enlèvement, sans agression, sans vol, sans bagarre entre les civils et les agents de sécurité. C'est une nouvelle ère. C'est un nouveau Gabon, c'est un Gabon d'espérance.
Dans une brève allocution, Oligui Nguema a demandé à tous les Gabonais de tourner la page de la campagne électorale et de reprendre le travail dès ce lundi pour bâtir le Gabon digne d'envie qu'il leur a promis. Yves Laurent Goma, Libreville. RFI.
Élection présidentielle plus contestée en Équateur. Après un premier décompte, l'autorité électorale a déclaré le président sortant Daniel Noboa vainqueur avec 56% des voix. Un résultat que ne reconnaît pas son opposante Luisa González du parti de la gauche. La candidate demande un recomptage des voix au moment où le président proclamé revendique une victoire historique. C'est un rappel brutal d'un besoin de négocier une trêve. Première réaction de la Maison-Blanche après la frappe russe. Elle a fait 34 morts et une centaine de blessés en Ukraine. Cette attaque contre des civils survenue au cœur de la ville de Soumy est la plus meurtrière depuis le début des tentatives de pourparlers de paix orchestrées par Washington. Dans une interview à la télé américaine, le président ukrainien a invité Donald Trump à venir voir les dégâts de ses propres yeux avant de reprendre les négociations de paix. Washington qui continue de souffler le chaud et le froid dans le dossier du nucléaire iranien. Après une première séance de pourparlers samedi, la Maison-Blanche a évoqué un pas en avant et des discussions positives. Mais le ministre de la Défense américain a rappelé dès le lendemain que les États-Unis sauraient frapper fort l'Iran en cas d'échec des discussions. Malgré ces nouvelles menaces, un vent d'espoir porte la société iranienne qui voit déjà les retombées positives de ce rapprochement. Les précisions de notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.
Les déclarations des responsables iraniens et américains qui ont parlé de climat constructif et positif lors de la rencontre d'Oman ont en effet eu un effet immédiat sur les marchés en Iran, comme l'affirme Reza, un commerçant de 65 ans.
Lorsqu'une simple séance de négociation peut faire baisser la valeur du dollar face au rial iranien et la valeur de l'or d'environ 20% et faire passer la bourse dans le vert alors qu'elle était dans le rouge, c'est un signe d'espoir, un signe qui peut permettre d'améliorer la situation économique.
En effet, avant la réunion de samedi, beaucoup craignaient un échec des négociations et un conflit ouvert entre l'Iran et les États-Unis. Le président américain Donald Trump avait en effet promis l'enfer en cas d'échec des négociations et de bombardement des sites nucléaires iraniens. Malgré ce vent d'espoir, les autorités ont appelé la population à la prudence en affirmant notamment que les négociations avec les États-Unis pouvaient prendre du temps. Les deux pays ont en effet rompu leurs relations il y a plus de 45 ans et il sera difficile de suspendre les nombreuses sanctions américaines contre Téhéran, mais aussi trouver une formule pour donner des garanties sur le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
Et l'Iran et les États-Unis qui doivent se rencontrer à nouveau samedi prochain à Oman pour une nouvelle ronde de discussions indirectes. Au Yémen, les Houthis dénoncent des frappes américaines qui ont fait au moins 5 morts dans la ville de Sanaa. Selon les rebelles, proches alliés de l'Iran, l'attaque a visé une usine de la région de Bani Matar. Washington n'a pas encore réagi. Plus tôt dans la journée, les Houthis avaient revendiqué 2 tirs de missiles balistiques contre Israël. Israël qui a bombardé un des derniers hôpitaux opérationnels de la bande de Gaza. L'Organisation mondiale de la santé affirme que l'interruption des soins a provoqué la mort d'un enfant. Le Royaume-Uni appelle Israël à cesser ses attaques déplorables contre les établissements médicaux. L'armée assure, elle, avoir ciblé un centre de commandement du Hamas. Et dans quelques heures, le géant de la tech Meta va comparaître devant le tribunal de Washington. L'entreprise, propriétaire de Facebook, est accusée de pratiques anticoncurrentielles. L'autorité américaine de la concurrence a porté plainte en 2020 au cœur du procès. WhatsApp et Instagram, deux plateformes acquises par Meta au début des années 2010. Les précisions de Lia Roisin-Pilot.
En 2012, Instagram était une jeune application mobile et surtout une possible concurrente pour Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook et patron de Meta. Il a donc racheté ce réseau social et reproduit la même logique 2 ans plus tard avec l'acquisition de WhatsApp. Aujourd'hui, Instagram compte 2 milliards d'utilisateurs et WhatsApp presque 3 milliards. Un risque de monopole selon la FTC, l'autorité américaine de la concurrence. C'est donc un procès de 8 semaines minimum qui débute et les enjeux sont gros. Si la FTC l'emporte, Meta devra peut-être abandonner les deux plateformes. Pour Zuckerberg, c'est la désillusion. En janvier dernier, le milliardaire a soutenu Donald Trump à la présidentielle. Il espérait ainsi un assouplissement du droit à la concurrence. Depuis, il s'est rendu plusieurs fois à Mar-a-Lago, la résidence du dirigeant américain, mais aussi à la Maison Blanche. Il venait y plaider l'arrêt des poursuites contre son entreprise, mais sans succès.
Lia Roisin-Pilot du service économie de RFI. Le protectionnisme ne mène nulle part. Avertissement du président chinois Xi Jinping à son homologue américain. Xi Jinping qui entame lundi une tournée en Asie du Sud-Est, a commencé par le Vietnam. Objectif, rallier ses voisins pour faire front commun face aux menaces tarifaires des États-Unis. Et puis l'attente est terminée pour les adeptes de Last of Us. La deuxième saison de cette série à succès sort lundi. Dans cet univers post-apocalyptique adapté de jeux vidéo, des clickers, une sorte de zombie aveugle, ont le cerveau colonisé et contrôlé par un champignon. Fait peu connu, en fait, ces champignons existent dans la vraie vie et ils ont inspiré les développeurs du jeu. Explication de Mathias Trud.
Nous, on habite ici et à l'extérieur.
Des monstres.
Et ces monstres, ils sont contrôlés par un champignon qui les fait crier comme ça, les rend aveugles et à l'affût du moindre bruit pour nous chasser. Ce champignon, il n'est pas complètement fictif. L'Ophiocordyceps est en effet capable, dans notre monde à nous, de manipuler le comportement de leur hôte. Alors ça touche surtout des insectes, et encore très rarement. Mais on parle par exemple de fourmis zombies. Le champignon prend le contrôle de ses muscles, une protubérance pousse sur sa tête, et elle se met en hauteur pour disséminer le champignon à la colonie en contrebas. L'infection est également possible chez les mouches ou les cigales, le champignon peut manipuler leur vol. Alors de là à le transmettre chez l'humain, c'est très improbable, comme l'explique le chercheur Thomas Guillemette dans un article de The Conversation. L'humain est biologiquement trop éloigné des insectes, et puis nos défenses immunitaires sont quand même d'un tout autre acabit. Il n'y a donc pas de zombification massive en vue, comme dans la série.
Et un dernier mot pour vous annoncer la mort du prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa. Il est décédé dimanche à Lima, à l'âge de 89 ans.